Chaîne 3, le journal.
Présenté par Nelimen Mendel, bonsoir.
Bonsoir Leïla, madame, monsieur, bonsoir. La une de l'actualité, deux audiences à la présidence de la République. Le chef de l'État a reçu aujourd'hui le premier ministre serbe et le président du Conseil national des régions et districts tunisiens. Le haut responsable tunisien a également été reçu par le président du Conseil de la Nation. Les deux responsables ont installé le groupe d'amitié parlementaire algéro-tunisien. Alger et Belgrade renforcent leur coopération. Le premier ministre a reçu aujourd'hui son homologue serbe. Des accords ont été signés. Plusieurs secteurs économiques sont concernés. Le chef de la diplomatie est à Bruxelles. Ahmed Attaf s'entretiendra avec son homologue belge et sera reçu par les hautes autorités du pays. Au chapitre économique, le gaz s'impose comme énergie indispensable à la transition. Les entreprises l'utilisent pour construire des modèles durables. L'association algérienne du gaz met ses expériences en avant dans son symposium à Oran. Dans le monde, l'entité sioniste poursuit son entreprise génocidaire en Palestine en toute impunité. La Knesset adopte une loi qui permet d'exécuter froidement plus de 10 000 prisonniers palestiniens. Météo Algérie a émis de nouvelles alertes. Il continuera à pleuvoir et neiger sur plusieurs wilayas du pays. Certains axes routiers sont fermés à la circulation. Et en sport, football, les Verts affrontent dans quelques minutes l'Uruguay. Un match à suivre à partir de 19h30. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Nous vous le disions en titre, chapitre diplomatique dense dans notre édition. Le chef de l'État a reçu aujourd'hui le premier ministre serbe à la présidence de la République. Plutôt, le président de la République a également reçu le président du Conseil tunisien des régions et districts, Ahmed Derbali. Le haut responsable tunisien aborde le renforcement de la coopération bilatérale. On écoute sa déclaration au sortir de l'audience.
J'ai eu l'honneur de rencontrer le président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune. L'échange était riche. Je lui ai transmis les salutations du président de la République tunisienne, Kais Saied. Nous avons évoqué les liens et les relations privilégiées qui unissent l'Algérie à la Tunisie. Cette rencontre a été l'occasion de revenir sur les différentes étapes qui ont marqué les relations entre nos deux pays et d'évoquer les moyens de renforcer davantage leur dynamisme au service de nos deux États et de nos deux peuples frères.
La coopération entre Alger et Tunis franchit un nouveau cap. Au-delà des relations gouvernementales, la diplomatie parlementaire est activée. Le haut responsable tunisien a été reçu ce matin par le président du Conseil de la Nation. Les deux responsables ont procédé à la signature du protocole de partenariat parlementaire, un levier pour consolider les liens politiques et dynamiser les échanges économiques. Hanan Saïsi.
L'Algérie et la Tunisie misent sur une coordination renforcée entre leurs institutions législatives, dont l'objectif est d'harmoniser les positions et accompagner les grandes orientations politiques communes. Azouz Nasri, président du Conseil de la Nation.
Je salue les mécanismes de coopération entre l'Algérie et la Tunisie, notamment le comité de réflexion et de prospective et le haut comité mixte de coopération, ainsi que le partenariat économique effectif formalisé par plus de 200 accords. Je me félicite de l'engagement en faveur d'un développement durable, en particulier dans les zones frontalières, et du soutien apporté à toutes les initiatives contribuant à la sécurité et à la stabilité dans la région, ainsi que l'harmonie exceptionnelle qui oriente les efforts des parlementaires des deux pays vers la défense des intérêts des peuples et le respect du droit international.
Les parlementaires des deux pays entendent jouer un rôle actif dans l'accompagnement des accords bilatéraux. Ahmed Derbali, président du Conseil national des régions et districts tunisiens.
Nous avons ratifié aujourd'hui un protocole d'amitié parlementaire. C'est un événement majeur et un pas stratégique pour le renforcement de la coopération parlementaire, économique et politique. Ceci traduit la volonté conjointe concrète d'élargir le partenariat en matière d'échange d'expertise et la concertation entre les deux institutions.
Une dynamique qui traduit une volonté partagée de construire une intégration bilatérale concrète qui prend forme aussi dans les hémicycles.
Le Premier ministre serbe, on vous le disait, est également à Alger depuis hier. Il a coprésidé aujourd'hui avec le Premier ministre Seferlib la cérémonie de signature de plusieurs accords bilatéraux dans les secteurs des finances, de l'agriculture, de la poste et du tourisme. Les deux parties ont également signé un programme exécutif dans le secteur de la culture pour les deux années à venir. Les deux premiers ministres ont eu des entretiens élargis aux délégations des deux pays. Ils ont passé en revue les différents aspects de coopération, mais aussi les moyens de renforcer le partenariat économique et booster les échanges commerciaux. Cette coopération avec l'Algérie ouvrira à la Serbie les portes de l'Afrique, assure le Premier ministre à son homologue serbe.
Je tiens à souligner l'importance d'encourager le dialogue entre les hommes d'affaires de nos deux pays. À travers vous, je m'adresse à la communauté économique de votre pays afin de profiter de cette dynamique positive qui caractérise nos relations et d'exploiter les opportunités de coopération et de partenariat possibles sur le marché algérien dans le but de contribuer à notre effort commun pour développer la coopération bilatérale et renforcer son contenu économique et d'investissement.
De son côté, le Premier ministre serbe réaffirme la volonté de son pays de porter les relations avec l'Algérie à des niveaux plus élevés.
J'exprime le souhait sincère de voir nos relations se développer et se renforcer. Il est essentiel de leur insuffler une nouvelle dynamique tant sur le plan politique que dans les échanges économiques avec des résultats concrets. J'espère que cette visite sera prochainement couronnée par des rencontres au plus haut niveau entre nos deux présidents. Notre partenariat futur devra s'appuyer sur des secteurs clés tels que l'agriculture, les engrais, le commerce et l'énergie qui a historiquement occupé une place centrale dans les relations entre l'Algérie et la Serbie.
Après Zagreb, le chef de la diplomatie est aujourd'hui à Bruxelles. Chargé par le président de la République, le ministre des Affaires étrangères entame une visite officielle au Royaume de Belgique. Une visite qui vise à insuffler une nouvelle dynamique aux relations algéro-belges et établir un partenariat bilatéral plus dense, plus efficient et plus efficace. Au cours de cette visite, Ahmed Attaf aura des entretiens avec son homologue belge, Maxime Prévost, et il sera reçu par les hautes autorités du pays, précise le communiqué du ministère des Affaires étrangères. Du nouveau pour les souscripteurs AADL, les souscripteurs ayant introduit un recours auprès de l'agence seront statués aujourd'hui sur leur cas. Ils sauront si leur recours a été accepté ou refusé. Ils pourront juste après procéder au paiement de la première tranche, précise l'AADL dans un communiqué. Le projet de loi qui encadre les élections est soumis au vote. Il a été adopté en cette fin de journée par les députés de l'APN, un texte qui régit l'opération électorale du début à la fin. Il prévoit des changements dans l'organisation du scrutin. Les candidats doivent répondre à de nouveaux critères et les partis politiques, pour eux, plus aucun financement étranger ne sera toléré. Le texte, on le disait, est adopté à l'Assemblée populaire nationale où on retrouve Maya Elkins. Maya, bonsoir.
Bonsoir Nariman.
Alors on le disait, le texte est adopté par les députés.
Effectivement Nariman, il y a quelques minutes, les députés ont voté à la majorité. D'ailleurs, le texte de loi vise à établir les bases juridiques et organisationnelles du processus électoral à travers 14 articles, modifiant 85 dispositions. Le projet introduit également 4 nouveaux articles et abroge 5 autres. Des amendements techniques qui prévoient la réorganisation et la restructuration de l'autorité nationale indépendante des élections, l'ANI, de manière à lui permettre d'exercer pleinement ses missions fondamentales, notamment en matière de préparation, d'organisation, de gestion et de contrôle des opérations électorales et référendaires, soit centrer ses missions sur ses prérogatives essentielles visant à garantir la transparence et l'intégrité. Justement, Nariman, le projet introduit par ailleurs plusieurs ajustements relatifs aux conditions de candidature et l'encadrement du processus électoral. Il prévoit notamment une réduction du taux de représentation des femmes dans les listes de candidature qui passe de la moitié au tiers avec une disposition transitoire. Il est également proposé de réduire réduire le nombre de signatures requises pour l'établissement des listes de candidats aux élections locales et législatives. 35 signatures au lieu de 50 pour les élections locales, 150 signatures au lieu de 250 pour les élections législatives à l'intérieur du pays et 100 signatures au lieu de 200 pour l'étranger. Donc Nalimène, le projet introduit par ailleurs de nouvelles exigences à la charge des candidats, notamment l'obligation de justifier de leur situation vis-à-vis de l'administration fiscale, soit par le règlement de leurs obligations, soit par la présentation d'un échéancier, soit encore par la preuve de non ajustements.
Nelly, merci Maya pour toutes ces précisions. Donc je rappelle que le texte de loi régissant le régime électoral a été adopté à l'Assemblée populaire nationale. Au chapitre économique à l'ère de la transition énergétique, le gaz s'impose comme une énergie clé indispensable. Il s'associe à d'autres sources pour parvenir à des modèles énergétiques résilients et durables. Entreprises et experts se sont penchés sur la question durant les travaux du 8e symposium de l'Association algérienne de l'industrie du gaz qui s'est tenu à Oran. Notre envoyé spécial, Rim Boukadoum.
Le gaz et les énergies renouvelables, ces deux piliers apparaissent aujourd'hui comme profondément complémentaires. Le gaz naturel par sa flexibilité et sa capacité à répondre rapidement à la demande, et les renouvelables s'imposent comme un investissement d'avenir. Leur rentabilité se confirme sur le long terme. Mohamed Daoudi, explorateur.
À long terme, la transition énergétique, elle sera économiquement rentable. Mais le gaz conventionnel reste le socle, reste la base de toute industrie énergétique. Dans le gaz fossile, on a ce qu'on appelle des dérivés. Chose qu'on ne retrouve pas dans la transition énergétique. C'est pour ça que les deux doivent marcher ensemble.
Pour certains pays, atteindre une énergie 100% propre est inévitable, mais la réalité économique impose d'autres règles. Jacques Solayrak, directeur général de l'entreprise Clark Energy.
Ce qui est important, c'est qu'on puisse tendre demain vers un monde dans lequel l'énergie soit 100% renouvelable. Néanmoins, la réalité aujourd'hui économique nous amène à devoir plutôt penser des systèmes qui soient hybrides, des systèmes intelligents, qui puisse combiner de la production d'énergie renouvelable, photovoltaïque, éolien, hydraulique, combiné avec des systèmes de stockage d'énergie par batterie, combiné avec des systèmes pilotables, des moteurs à gaz, des moteurs diesel lorsqu'il le faut, et surtout avoir une intelligence derrière qui permette de piloter de manière efficace et flexible ces différents assets.
Cette complémentarité entre ces deux ressources énergétiques n'est plus une option, elle devient une nécessité pour les pays producteurs comme pour les économies en transition. Miser sur cette dualité, c'est investir dans une souveraineté énergétique durable.
Et le gaz est utilisé notamment pour produire des carburants. Le secteur automobile est pleinement inscrit dans cette transition. Un secteur qui renaît de ses cendres en Algérie. Les pouvoirs publics aspirent à bâtir une industrie solide avec des taux d'intégration appréciables. Les entreprises qui adhèrent à cette politique sont présentes à la SAFEX où se tient Equipoto. Younes Djoudi est parti à leur rencontre.
Pièces de rechange, accessoires, maintenance ou encore diagnostics, toute la chaîne est représentée à la SAFEX d'Alger avec une forte participation d'entreprises algériennes engagées dans le développement du Made in Algeria. Parmi elles, Fabcom, fabricant de batteries, qui affiche un taux d'intégration en croissance, atteignant presque 90% en 2026, malgré le recours à certaines importations. Cela reste un cas concret de production locale en plein essor, comme nous l'explique leur représentant.
Fabcom, c'est une usine de fabrication des batteries automobiles, entrée en export. En 2015, avec capacité de 150 000 batteries. Je travaille localement.
Autre exemple marquant, le groupe Technocast qui se distingue avec un taux d'intégration de 100% dans la suspension automobile. La directrice des opérations explique une progression qui illustre la montée en puissance de l'industrie nationale algérienne.
La première année, on était juste un simple fabricant avec une petite unité. D'année en année, on a enrichi d'abord notre chaîne de production. Là, nous avons notre propre équipe technique. On fait notre propre conception. On est vraiment indépendant.
Au-delà de la vitrine commerciale, le salon met en lumière un enjeu clé, le développement du taux d'intégration local, avec pour objectif de renforcer la production nationale, réduire les importations et bâtir une industrie automobile plus compétitive.
À 19h17, la suite du journal. L'entité sioniste adopte une nouvelle loi qui défie le droit international. L'occupant étant habitué à ce genre de décisions controversées à l'égard des Palestiniens, tous les prisonniers détenus dans ces geôles seront exécutés froidement. Une loi largement approuvée par la Knesset. Encore un crime, dénoncent les Palestiniens. On écoute à ce propos Raed Hamer, président des relations internationales au club des détenus palestiniens. Il est contacté par Linda Hamed.
Son objectif, occulter et couvrir tous les crimes commis par l'entité sioniste contre les détenus palestiniens dans les geôles de l'occupation. Des crimes qui ont nettement augmenté depuis le 7 octobre 2023, depuis plus de 2 années. Cette loi, largement approuvée par la Knesset d'un gouvernement d'extrême droite sioniste, une autre loi purement criminelle qui s'ajoute à d'autres sur la liste de l'entité sioniste pour réprimer les Palestiniens. Nous tentons alors de sensibiliser l'opinion internationale, les hautes instances et notre représentation à l'ONU pour exercer une pression, avoir gain de cause et réussir à faire cesser ce genre de décision.
L'ONU estime que l'application de cette loi est un nouveau crime de guerre commis par l'entité sioniste. Une loi également décriée en Europe où plusieurs capitales ont dénoncé une loi discriminatoire renforçant le régime d'apartheid imposé par l'entité sioniste. L'entité sioniste qui compte également occuper une partie du Liban après la fin du conflit au Moyen-Orient, une intention assumée. Le gouvernement libanais alerte sur une situation dramatique face au projet de zone tampon sioniste. Il appelle la diplomatie pour éviter la catastrophe. Les détails avec Liesel Rini.
En l'espace de quelques semaines, plus d'un million de personnes ont été déplacées à l'intérieur du Liban, tandis qu'environ 200 000 ont fui vers la Syrie voisine. Un cycle de déplacements forcés est en cours, alors que le ministre sioniste de la Défense a affirmé que son armée comptait s'installer dans une zone allant du sud du Liban jusqu'au fleuve Litani. Faiza Mokaddem, vice-présidente de l'Union internationale des avocats, appelle depuis Beyrouth à une mobilisation urgente pour protéger les civils.
Israël intensifie, joue... Or, la loi ne respecte plus le droit international dans cette séquence. Les frappes ont dépassé le sud pour toucher la banlieue sud de Beyrouth et d'autres zones civiles. Des centaines et milliers de déplacés. Nous condamnons les frappes. La situation se dégrade à vue d'œil. Il faut une vraie pression diplomatique vite avant que tout explose, que les diplomaties freinent le train avant le déraillement total.
Escalade militaire, crise humanitaire et incertitude sécuritaire, l'ONU appelle à une réaction internationale rapide au Liban pour éviter le scénario d'un territoire durablement occupé et d'une population prise au piège.
La guerre se poursuit au Moyen-Orient. Le président iranien Mesoud Pezeshkian a déclaré que l'Iran avait la volonté de mettre fin à la guerre, mais voulait des garanties pour empêcher la répétition de l'agression. Retour chez nous, des pluies orageuses, des chutes de grêle et des rafales de vent continueront d'affecter plusieurs wilayas du pays. Jusqu'à demain, mercredi, les wilayas du centre, de l'est et du sud sont concernées avec des quantités de pluie pouvant atteindre les 50 mm. La protection civile intervient et rappelle les consignes de sécurité. On écoute à ce propos le lieutenant-colonel Nassim Barnaoui, sous-directeur de l'information et de la communication à la Direction générale de la protection civile.
Des opérations d'épuisement des eaux pluviales, notamment effectuées au niveau de la wilaya de Béchar, à la commune de Béchar, à la cité Manouka, à Sifati Mimoun, devant la gare routière. Quelques opérations au niveau de la wilaya de Skigda, Hamadi Kourouma, commune de Skigda, suite à des chutes d'arbres à proximité de quelques habitations sans causer des personnes blessées. Même chose au niveau de la wilaya de Mila, à la commune de Gralem Gouga, chute d'un arbre qui a provoqué l'effondrement partiel d'un mur extérieur ainsi que la chute d'un poteau électrique. Ainsi, les routes qui restent difficile à la circulation, notamment reliant Bouira et Tizi Ouzou, à 33, 35, surtout au niveau des cols de Tizi Nkounen ainsi que de Tirouda et Chalata, reste coupé à la circulation. La protection civile appelle aussi l'ensemble des citoyens à doubler vigilance et être prudent, notamment avec la baisse des températures. Il faut que les citoyens pensent toujours à ventiler, aérer leur domicile afin d'éviter d'être victimes du monoxyde de carbone ou durant les dernières 48 heures, on déplore le décès de 3 personnes intoxiquées par le monoxyde de carbone.
Nos routes également continuent de tuer. 37 personnes sont décédées, plus de 1800 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation en une semaine. Soyez donc vigilants. On passe au sport à présent avec vous, Nassima Djaout. Bonsoir.
Bonsoir, Naliman.
Algérie-Uruguay en amical, c'est ce soir à partir de 19h30 à Turin, en Italie, en prévision du Mondial 2026.
Après avoir battu sévèrement vendredi dernier le Guatemala 7-0, l'équipe algérienne affrontera dans moins de 10 minutes l'Uruguay à partir de 19h30, un premier test test, un vrai test pour les Verts, à moins de 2 mois et demi du coup d'envoi du mondial face à l'Uruguay qui a décroché un match nul face à l'Angleterre en amical. La mission des hommes de Vladimir Petkovic s'annonce compliquée. L'équipe de l'Uruguay est considérée comme une grande nation de football mondial avec entre autres 2 titres de champion du monde. Mais ça remonte à très loin, 1930 et 1950, 15 titres de Copa América et 2 médailles d'or olympiques. Un véritable test pour les Verts, comme le dit Riyad Mahrez, le capitaine.
L'Uruguay, bon, c'est une équipe similaire un peu à l'Argentine, très agressif et même dans la manière de jouer. Après, on a 2 autres matchs peut-être amicaux avant la Coupe du Monde pour se préparer. Le plus important, c'est d'abord de se concentrer sur nous, essayer de bien jouer ensemble, d'avoir des certitudes, d'avoir de la confiance dans notre jeu pour pouvoir arriver à cette Coupe du Monde fin après. Après, bien sûr, un adversaire comme l'Uruguay, qui est une grande nation dans le football, et c'est un bon test pour nous, pour voir où on en est après notre élimination au quart de finale de la CAN.
Riyad Mahrez, donc l'équipe algérienne, dans moins de 10 minutes, le match sera retransmis à Algérie-Uruguay en direct sur les ondes d'Algérie 3. Et puis demain, ça sera la mise à jour de la 17e journée avec tous les regards qui seront braqués sur le stade Ali Amar de Douira pour ce derby algérois entre le Mouloudia d'Alger et l'USM Alger à partir de 16h, un match à huis clos sans le capitaine Abdellaoui qui a écopé d'une suspension de 8 matchs et dans 2, donc avec sursis. Il y aura également à partir de 15h Paradou Athletic Club, Chabab de Belouzdad et à 16h, il y aura Jeunesse sportive de Kabylie, Étoile sportive de Ben Aknoun.
Merci Nassima Diaoud pour toutes ces informations sport, les dernières de cette édition qui a été réalisée par Sidali Toubali, Ahmed Dadou, Adlène était à la technique, Tahar à la régie d'antenne et Najib au streaming vidéo. Merci à vous de nous avoir prêté attention.